La suite, un nouveau journal dans moins de 20 minutes et un double dimanche électoral à la une. On part en Pologne retrouver notre envoyé spécial Daniel Valo, premier tour de la présidentielle dans le pays et second tour du côté de la Roumanie où l'extrême droite pourrait bien l'emporter, soutenu notamment par le Hongrois Viktor Orban, vous l'entendrez. À suivre d'ici là notamment la revue de presse, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec Catherine Potet. On va parler notamment de la bande de Gaza et tout de suite c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
En football, Berkane remporte la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération.
Succès 2-0 des Marocains acquis dans le premier quart d'heure face aux Tanzaniens de Simba. Ouverture du score signé Mamadou Lamine Camara. Dès la 8e minute, Oussama Lamlioli double la mise 6 minutes plus tard. Final retour la semaine prochaine à Dar es Salaam avec peut-être au bout un troisième sacre africain pour Berkane.
Sacre africain que vise l'Afrique du Sud et le Maroc à la CAN U20.
Jour de finale pour la compétition en Égypte, sud-africain et marocain face à face à partir de 18h temps universel. Un peu avant, le Nigeria affrontera l'Égypte pour la troisième place à 15h TU.
En France, la Ligue 1 s'est conclue hier sur une défaite lourde de conséquences pour le stade de Reims.
Les Rémois battus 2-1 par Lille, quand dans le même temps Nantes s'imposait sur Montpellier 3-0 et que Le Havre surprenait Strasbourg sur une panenka du Guinéen Abdoulaye Touré à la 97e minute. Du coup, Reims glisse au 16e rang et devra jouer un barrage contre Metz pour assurer le maintien en Ligue 1. Yevan Diouf, le gardien sénégalais de Reims, se montrait très abattu.
Est-ce qu'on peut être surpris? Je sais pas. Donc voilà, on a remis notre destin entre les mains de quelqu'un, entre les mains d'une autre équipe, et l'équipe, elle a pris son destin en main et elle a fait les choses pour elle. On savait qu'on pouvait pas forcément compter sur les autres. On avait le moyen de faire un match nul ici, de faire un match nul aussi contre Saint-Etienne. On l'a pas fait, on est puni. Voilà, on a peut-être ce qu'on en mérite.
Yevan Diouf chez nos confrères de DAZN.
Un mot de la Guinée qui, 10 mois après sa participation aux Jeux Olympiques de Paris, continue de faire parler d'elle.
Mais cette fois, côté finance, rentrée bredouille de l'expédition parisienne, la délégation guinéenne a laissé une note salée que va devoir régler son comité olympique sous peine de sanctions. Tchernoya Diallo.
C'est un montant d'un peu plus de 90 000 euros qui est réclamé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris au comité national olympique et sportif guinéen. Des frais non réglés liés à l'hébergement de l'équipe nationale de football dans les villes de Paris, de Nice et de Saint-Étienne. Dans l'embarras, le comité olympique guinéen a saisi le ministère des Sports, son principal bailleur de fonds. Mais pour le moment, cet appel à l'aide n'a pas eu d'écho favorable. Contacté par nos soins, le directeur national adjoint des Sports s'est dit surpris et affirme avoir déjà réglé la facture générée par l'excédent de 15 personnes ayant séjourné avec l'équipe durant les Jeux. Et dans le dernier courrier du comité d'organisation des Jeux Olympiques, la partie guinéenne avait jusqu'au 7 mai dernier pour régler la note. Faute de quoi, le pays pourrait être sévré de subventions de la part du CIO et même de prise en charge pour les prochains Jeux. Tchernoya Diallo, Conakry, RFI.
Et puis Antoine, du cyclisme pour finir avec la deuxième étape du Tour du Togo remportée par le Malien Yaya Diallo.
Battu sur le fil hier, l'ancien champion national a cette fois-ci devancé au sprint son compatriote Fidel Cissé à Dapaong. Et il savoure.
Hier, on a fait beaucoup de travail. À la dernière minute, on a eu beaucoup de panne. Avec mon collègue, il a été échappé. À la dernière kilomètre, il a crevé. J'ai décidé de travailler pour diminuer le temps. À ce moment-là, il était 3 minutes et quelques. Mais j'ai roulé. Le temps est resté 1 minute 25. Mais après arriver, il m'a déclassé. Aujourd'hui, j'ai décidé quand même. À la circulation, je vais gagner pour montrer que la vélo n'est pas parole. Si tu veux, il faut travailler.
Yaya Diallo avec Gerson Dovo. Le maillot jaune reste sur les épaules du Burkinabé Saturnin Yamé Ogo. Aujourd'hui, troisième étape de ce Tour du Togo, la plus longue, 141 km entre Mango et Kara.
Et prochaine étape avec vous dans une demi-heure, Antoine Grenier, merci beaucoup.
RFI Matin.
Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche, à la une, aujourd'hui, le martyr de Gaza.
C'est le Nouvel Obs qui fait sa une sur Gaza, photo d'un homme debout au milieu des ruines. Enfin serait-on tenté de dire, tant les hebdomadaires français se sont peu intéressés ces derniers mois à ce qui se passe dans l'enclave palestinienne. Pourtant, 19 mois après les massacres commis par le Hamas, les destructions systématiques menées par le régime de Benjamin Netanyahu ont presque anéanti la bande de Gaza, écrit le Nouvel Obs. Destructions qui font planer la menace d'un exode forcé sur ces 2 millions d'habitants. Un spectre hante les Palestiniens de Gaza, poursuit l'hebdomadaire. La Nakba, la catastrophe en arabe, référence à l'expulsion d'une partie des populations arabes de Palestine lors de la naissance d'Israël en 1948. Depuis les massacres du 7 octobre, explique le Nouvel Obs, les Palestiniens ont la certitude de vivre une nouvelle Nakba à Gaza sous les bombes, mais aussi en Cisjordanie de manière plus rampante et insidieuse, sous l'action souvent conjointe de l'armée et des colons israéliens.
Le Nouvel Obs qui a choisi de raconter dans le détail une journée particulièrement meurtrière dans la bande de Gaza.
C'était le 13 juillet 2024, le bombardement d'un gigantesque camp de déplacés à Al-Mawassi. À l'aube du 13 juillet, raconte l'hebdomadaire, le camp est déjà bien animé. Une citerne d'eau potable vient d'arriver, des enfants pieds nus, impatientes, tendent de toute leur force leurs gamelles en plastique à travers la grille de séparation de la cuisine. Quelques heures plus tard, les bombes pulvérisent Al-Mawassi. En une seconde, le camp s'est recouvert d'un nuage de cendres et de poussière, puis le chaos. Plus de 90 Palestiniens seront tués ce jour-là. Le Nouvel Obs revient notamment sur le sort d'une mère de famille, implorant les passants de l'aider à retrouver ses enfants sous les décombres. Ses trois enfants de 8, 12 et 16 ans qui sont morts, déchiquetés par la frappe et ensevelis, raconte le Nouvel Obs. Quelques minutes après cette frappe, poursuit l'hebdomadaire, Israël a affirmé cibler Mohamed Deif, un des leaders militaires du Hamas qui avait revendiqué à l'aube du 7 octobre le lancement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa et qui a été tué le 13 juillet. Mais sur le plan du droit international, c'est un crime de guerre, estime Julia Grignon, professeure agrégée en droit. Si les pertes civiles étaient prévisibles et manifestement excessives au regard du gain militaire attendu, cela, dit-elle, constitue un crime de guerre.
Dans la presse hebdomadaire également cette semaine, les réactions à l'élection du pape Léon XIV.
Le Point y consacre d'ailleurs sa une avec ce titre Léon XIV, le pape d'un nouveau monde. Le premier américain du Nord, mais qui vient aussi du Sud, il a longtemps été missionnaire au Pérou. Un pape jeune et moderne, mais jusqu'où ira-t-il? Le Point s'interroge notamment sur les femmes diacres et prêtres. Le sujet de leur ordination va-t-il rester éternellement tabou dans l'Église? On serait tenté de dire oui à lire l'article de l'hebdomadaire, car nous explique l'historien Alberto Meloni, la question des femmes touche à des enjeux théologiques fondamentaux au-delà d'une affaire de parité ou d'égalité des sexes. Problème, ajoute-t-il, ouvrir la prêtrise aux femmes ou même rétablir le diaconat féminin nécessiterait un concile. Ce n'est pas une décision qu'un pape peut prendre seul. Autrement dit, rien n'est fait.
Enfin, Catherine, le journal du dimanche se fait l'écho des nouvelles intentions du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, en matière pénitentiaire.
Gérald Darmanin va enfermer les narcotrafiquants dans la jungle amazonienne, clame le JDD qui parle d'une forteresse isolée conçue pour enfermer les criminels les plus dangereux du narcotrafic et les islamistes. Une annonce faite alors que le ministre est en visite en Guyane. Gérald Darmanin qui publie les annonces sur les prisons et qui déclare ainsi « J'ai décidé d'implanter en Guyane la troisième prison de haute sécurité de France, 60 places, un régime carcéral extrêmement strict et un objectif, mettre hors d'état de nuire les profils les plus dangereux du narcotrafic. » Le journal du dimanche nous donne un aperçu de l'implantation de la nouvelle prison au bout du monde, à Saint-Laurent-du-Moroni, aux confins du fleuve, à 300 km de Cayenne, à des jours des premiers hameaux accessibles uniquement en pirogue ou par avion. Une forteresse volontairement isolée, commente le JDD, comme un écho au bagne d'autrefois, mais avec les codes du 21e siècle. Objectif de Gérald Darmanin, ouvrir cette prison qui reste à construire en 2028.
Merci Catherine Potet.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et dans l'Afrique en marche, ce matin, des vêtements fabriqués dans une matière habituellement utilisée pour le transport du cacao. Rencontre en Côte d'Ivoire avec une créatrice de mode qui a connu comme premier succès les accessoires à base de toile de jute. Sa marque s'appelle LE Création et Frédéric Gara nous emmène la découvrir à Abidjan. Reportage.
Chez LE Création, on utilise l'artisanat pour le moderniser. C'est-à-dire, on le fait dans des coupes modernes. Comme ça, on a chez toute cette cible-là, ceux qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas le pain ». Le pagne baoulé, on a fait une veste. Mais quand ils voient le design, ils se disent « Ah, à quoi que ça peut le faire ?» Mais ça ressemble à un petit Chanel. Donc on essaie vraiment de se diversifier pour atteindre toutes les cibles.
Et en 12 ans d'existence, Liliane Saïd a atteint pas mal de cibles dans sa clientèle et pas mal d'objectifs parmi ses nombreux projets. Le premier était de faire de la toile de jute, utilisée pour les sacs de transport du cacao, un textile reconverti en vêtements et en accessoires, comme des sacs à main ou bien des bagages. Une idée qui est née au hasard de ses rencontres. Liliane Saïd.
Et en fait, c'est venu comment ? C'est justement Filti Sac qui m'a contacté, ouais, qui fabrique le jute en fait, qui fabrique la toile de jute. Donc ils avaient besoin des cadeaux de fin d'année pour leurs clients. Et puis quand j'ai reçu l'échantillon, je me suis dit « Ah, il y a plein de choses à faire ». Donc j'ai fait un tote bag avec une trousse et je leur ai proposé. Ils m'ont dit « Ah, mais c'est super !» Leurs clients ont apprécié. Et après ça, je me suis dit « Ah tiens, il y a quelque chose à faire !» Les gens aiment beaucoup, donc du coup, ça m'a fait une petite reconnaissance. On me reconnaît. Avec ce jute-là, on me reconnaît.
Accessoires ou vêtements en jute, doublés de wax ou bien de pagne, les modèles de LE Création font un tabac en Côte d'Ivoire et aussi lors des ventes éphémères au Sénégal, au Mali ou bien en France. Un made in Africa qui plaît.
Quand on regarde même la mode en général, beaucoup d'imprimés viennent d'Afrique. Donc du coup, le fait que ce soit vraiment l'authentique fabrication, je pense que c'est ce qui crée cet engouement-là, parce que c'est des imprimés que les gens retrouvent, qu'ils ont déjà vu, consommés africains. C'est là où est notre lutte, c'est là qu'on doit se démarquer, c'est là, venez acheter, et là on fera la différence, le combat il est là.
Dans son atelier de marquerie à Abidjan, Liliane Saïd nous présente sa quinzaine d'ouvriers.
Comme j'expliquais, l'atelier est vraiment compartimenté. Lui, par exemple, c'est un spécialiste des vêtements. Donc tu vois, ben, je parlais du fameux Tayendai, c'est cet imprimé là. C'est que lui qui fait des vêtements. Lui aussi, pareil, il fait des vêtements. Donc il travaille aussi le voile de Mauritanie. Comme je disais, on travaille plusieurs matières. Donc là, c'est le voile de Mauritanie. Je travaille aussi la toile de Korogo. Je trouvais que c'était tellement magnifique avec les imprimés. Donc du coup, j'ai fait un grand cabas. Magnifique.
Travailler, créer sur la base de tissus traditionnels ou de la toile de jute, c'est ce qui plaît à Olivier Trabi, couturier depuis 10 ans chez Elle Création.
Moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. Parce que nous, on voit un sac de cacao, mais les fèves de cacao dedans. Et puis aujourd'hui, ça se transforme en accessoire de dame. C'est vraiment original, quoi. C'est intéressant, c'est beau.
Anne Grosfilet est anthropologue et spécialiste du textile. Elle apprécie cette conjugaison entre tissu africain et mode contemporaine.
Ça montre que les métiers de la mode, c'est une chaîne de valeur. Bah, depuis le coton, déjà, qui va être produit localement, filé, tissé, puis ensuite, il va y avoir un décor sur ce tissu. Et jusqu'au produit fini, que ce soit un sac, que ce soit un manteau, une robe. Donc, il y a toute une chaîne de valeur locale qui valorise aussi un patrimoine vivant. Et donc, au final, on a des vêtements qui ont du sens et qui permettent également de pérenniser des savoir-faire, qui parlent de transmission aussi. Et puis, je trouve que aussi la démarche de LE Création, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait de s'adresser à des, j'ai envie de dire, des afropolitains ou de créer des vêtements qui ne seront pas forcément portés en Afrique, comme des manteaux, par exemple, ou des sacs. Je trouve ça très, très pertinent d'avoir ces pièces et puis qui deviennent vraiment des objets de fierté culturelle, en fait.
Des savoir-faire, des talents mis en valeur avec un autre savoir-faire, celui de Liliane Saïd et de ses créations.
Frédéric Gara et la marque LE Création que vous pouvez découvrir pour la bonne cause lors d'une vente caritative de l'AIFC, une association d'alphabétisation. Ce sera samedi prochain au Centre Sportif Culturel Ivoiro-Coréen de Cocody. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde. Avant le journal, un peu de musique avec un homme qu'on a vraiment plus besoin de présenter, la star des artistes nigérians, Burna Boy, qui a sorti cette année un album intitulé No Sign of Weakness, pas de signe de faiblesse en français. Le titre Update est dans la sélection du mois de RFI.
Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to life. Back to reality, back to the here and now, yeah. Ready for one,
gbagba ya pawo ma update ko le pawo one more pawo take them to jankawo ma lo pawo on baba jesu oko ashawo
Boy et son titre Update dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr et le journal dans 30 secondes. A tout de suite.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
304 jours, c'est la durée du service militaire en France quand il était obligatoire, et c'est le titre de la pièce de Karim Amiche qui, à partir de son expérience et des témoignages qu'il a recueillis, raconte à hauteur d'hommes et de femmes la conscription et son épigone actuel, le SNU, le Service National Universel.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41, sur RFI.